RCF.
L'intervention du maréchal Pétain à la radio le 17 juin 1940, puis l'attaque par les Allemands de l'URSS en 1941, constitue déjà, Fabrice Grenard, on l'a vu avec vous, des éléments déclencheurs de la résistance en France. L'année 1942 marque un autre tournant. Alors il y a plusieurs étapes dans cette année, avec notamment le retour de Laval. Racontez-nous les circonstances et en quoi ce retour de Pierre Laval fait prendre conscience à certains Français qu'il faut qu'ils luttent.
Oui, Pierre Laval était très impopulaire. Il avait été renvoyé le 13 décembre 1940. Hein, il était déjà chef du gouvernement au début de l'occupation. Il avait été renvoyé le 13 décembre 1940 par le maréchal Pétain, à la grande satisfaction de l'opinion. Beaucoup de Français considéraient Pierre Laval comme le mauvais génie du maréchal Pétain, comme celui en fait qui avait été l'instigateur de la politique de collaboration. À partir du moment où Pierre Laval revient au pouvoir en avril 1942 et où il annonce vouloir relancer la collaboration, eh bien, le processus de détachement à l'égard du régime de Vichy s'accélère. Beaucoup de Français, effectivement, au départ, avaient pu croire que ce régime de Vichy pouvait peut-être mener un double jeu. On annonçait officiellement vouloir collaborer, mais en sous-main, on préparait peut-être une politique de revanche. Avec le retour de Pierre Laval, l'homme des Allemands, comme le qualifient les Français, on voit bien que ces illusions disparaissent et que Vichy est pleinement dans la collaboration. À partir de ce moment-là, je dirais que la situation s'éclaircit. Les confusions ne sont plus possibles. Il y avait au départ ce qu'on appelait par exemple les vichisto-résistants, des gens qui avaient rejoint la résistance tout en soutenant au final l'œuvre du maréchal Pétain sur le plan intérieur. Henri Freinet, par exemple, le futur chef de combat, était dans cette ligne-là. À partir du moment où Laval revient au pouvoir, cette logique n'est plus possible. Et donc, ceux qui étaient des vichistes résistants deviennent des résistants à part entière.
Premier élément important de cette année 1942. Un autre élément important, c'est que la traque des Juifs étrangers s'accélère et qu'on assiste à des rafles, à des arrestations qui heurtent énormément les Français, l'opinion publique.
Tout à fait. Il y avait déjà eu quelques rafles, mais elles étaient en 1941 très limitées, essentiellement la région parisienne, et elles ne concernaient que des hommes, des Juifs étrangers. Avec la rafle du Vélodrome d'hiver en juillet 1942 à Paris, avec les rafles aussi qui sont organisées en zone sud, on change totalement d'échelle. Et surtout, les gendarmes et policiers français arrêtent des hommes, mais aussi des femmes, des enfants, des vieillards. Tout cela choque l'opinion et crée un mouvement de réactivité sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, des gens qui étaient plutôt restés jusqu'alors peut-être indifférents à l'égard des premières mesures antisémites vont désormais accepter par charité, hein, bien souvent, d'aider les Juifs persécutés. Et on a donc des stratégies de sauvetage qui vont se mettre en place et qui auront besoin aussi de la résistance.
Et puis un autre moment clé, c'est l'invasion par les Allemands de la zone sud, qui jusque-là était une zone libre, régie par le régime de Vichy.
C'était le royaume du maréchal, comme on disait à l'époque. Effectivement, la France était coupée en deux, zone occupée au nord, zone dite libre au sud. Mais en contradiction totale avec les accords d'armistice, au lendemain du débarquement allié en Afrique du Nord, en novembre 1942, Hitler décide d'envahir, d'occuper la zone sud pour pouvoir en fait fortifier la côte méditerranéenne et repousser un éventuel débarquement sur les côtes françaises. Mais Vichy ne réagit pas, Pétain ne dit quasiment mot, et le régime de Vichy accepte même la dissolution de la petite armée d'armistice qui avait été maintenue depuis 1940. Dans ce contexte-là, des gens qui avaient pu prêter serment de fidélité à Pétain, notamment des hauts fonctionnaires, des militaires, se sentent totalement déliés de ce serment et vont pouvoir rejoindre la résistance alors qu'il n'en était pas question pour eux jusqu'alors.
petit à petit, moi, j'ai été un petit peu influencé, même pas mal, par un prêtre qui s'appelait l'abbé Camille Follier, qui est mort sur le front italien en portant secours parce qu'il était aumônier, et qui avait pris une position très, très tranchée pour la résistance et qui secouait un peu ses curés de la frontière suisse en leur disant « Vous n'avez pas le droit d'être indifférent, il faut aider tous ces gens-là ». Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de prêtres de la frontière qui se sont engagés. Et là, je me suis occupé de leur demande de médaille des justes. C'est émouvant, vraiment, d'apprendre tout ça. C'est le petit clergé, ça, c'est vrai. Et ça a été pour moi, cet exemple de Camille Follier, un soutien. Et j'ai dit, s'il a pris fait et cause pour cette noble cause, eh bien, moi, je vais en faire autant. Parce que je savais que c'était un homme d'une conscience et d'une droiture exceptionnelle. Et on s'est engagés ensemble et vraiment on a pu aider des familles à passer en Suisse grâce à tous ceux-là de la frontière, ces petits prêtres qui étaient quelquefois à des centaines de mètres de la frontière ou bien par le lac aussi.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Un extrait du témoignage de la résistante Jeanne Brousse, décédée en 2017, Fabrice Grenard. Elle dit à peu près tout de cet abbé Camille Follier, qui est une illustration très intéressante de l'engagement des prêtres vis-à-vis justement de ces juifs qui sont persécutés.
Tout à fait. Au début de l'occupation, l'Église catholique, sa hiérarchie, est plutôt rangée solidement dans le camp de Vichy. Mais à partir du moment où se développent les persécutions, notamment à partir de 1942, des prêtres de terrain, eux, vont faire un choix inverse et vont s'engager pleinement pour venir en aide aux persécutés. L'abbé Camille Follier en est un très bon exemple, puisqu'il est aumônier de la JOC à Annecy, et la Haute-Savoie est dans une situation géographique tout à fait stratégique, puisque c'est un département frontalier avec la Suisse. Et la Suisse est la seule porte sortie possible dans une Europe quasiment totalement occupée. Et donc l'abbé Camille Follier, à partir de l'été 1942, progressivement, va constituer tout un réseau de prêtres en Haute-Savoie pour développer des filières de sauvetage et permettre aux Juifs qui cherchent à passer en Suisse eh bien, de franchir la frontière.
Vous soulignez dans votre livre que ce tout jeune prêtre, il a 24 ans quand il est ordonné, ne ménage pas sa peine. Il déploie une énergie considérable pour aller à la rencontre des autres prêtres du diocèse, comme dit Jeanne Brousse, les secouer un peu, les convaincre de s'engager, et il prend des risques.
Oui, la Haute-Savoie est un département montagneux, donc les déplacements sont forcément difficiles. Et effectivement, il parcourt tout le territoire pour développer des complicités. Le passage en Suisse ne peut pas être comme ça immédiat. La frontière est difficile à passer. Il faut de bonnes conditions météorologiques. Il faut que les patrouilles ne soient pas trop importantes. Donc, avant de pouvoir faire franchir clandestinement la frontière, souvent, il faut cacher les familles juives pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et pour cela, il faut des complicités. Et donc, l'abbé Follier va développer tout un réseau dans toute la Haute-Savoie pour effectivement prendre en charge, héberger, ravitailler ces Juifs, avant ensuite de leur trouver des passeurs qui vont les faire passer de l'autre côté de la frontière.
Il implique même son père, qui a un magasin dans Annecy et qui cache une famille de Juifs pendant assez longtemps.
Tout à fait. Et là, on voit bien que de toute façon, la résistance est aussi souvent une histoire de famille. Quand dans une famille, quelqu'un résiste, il implique plus ou moins directement en fait tous les membres de cette famille.
Est-ce qu'il va passer à travers les mailles du filet de la Gestapo et de la police française?
Malheureusement, non. Alors là, il y a une spécificité qui est que à la fin 1942, la Haute-Savoie, comme l'ensemble du Sud-Est, n'est pas occupée par l'Allemagne, mais par l'Italie, puisque Mussolini est l'armée d'Hitler. Donc il y a une zone d'occupation italienne. Et ce sont les policiers italiens qui vont arrêter l'abbé Follier au printemps 1943. Follier sera d'ailleurs emprisonné en Italie avant d'être libéré lorsque l'Italie changera de camp à l'automne 1943 après la chute de Mussolini. Mais il rejoindra à nouveau la résistance en France, il participera au combat pour la libération de Paris et il sera malheureusement tué dans des combats dans les Alpes, vraiment les derniers combats de la guerre contre les forces allemandes du général Kesselring qui s'accrochaient aux différents cols encore au début de l'année 1945.
Donc là, il s'agit vraiment d'une résistance motivée par le fort intérieur, la conscience.
C'est une résistance morale, c'est désobéir en conscience. La hiérarchie de Camille Follier appelait plutôt à obéir à l'ordre en place. Après tout, le régime de Vichy était un gouvernement français. Mais l'abbé Follier va donc désobéir à sa hiérarchie tout en étant au fond de lui-même certain qu'il a la légitimité pour lui et la morale pour lui, bien sûr.
Il y aura eu avant cela, bien sûr, une lettre écrite par Mgr Saliège, l'archevêque de Toulouse, qui appelle à une prise de conscience justement à l'égard de ces Juifs qui sont arrêtés et qui sont, dit-il, nos frères et nos sœurs.
Oui, il faut bien comprendre que donc, des Juifs sont arrêtés en zone sud au cours de l'été 1942 et la zone sud n'est pas occupée. La France, d'ailleurs, est le seul pays où des Juifs vont être arrêtés dans un territoire qui n'est pas occupé pour être remis aux Allemands. C'est quelque chose de terrible,
Par la police française.
Mgr Saliège a vu ça dans la région de Toulouse et effectivement, il décide de réagir. Et cette lettre sera d'ailleurs reprise ensuite par la plupart des journaux clandestins de la Résistance. Et elle montre véritablement un tournant. Jusqu'alors, on s'intéressait assez peu au sort des Juifs en France. À partir de l'été 42, eh bien, encore une fois, la société française va réagir, va permettre en fait de sauver une majorité de ces Juifs, puisque, on le sait notamment grâce aux travaux de l'historien Jacques Semmelin, 75% des Juifs qui vivaient en France pourront échapper aux arrestations et donc à une mort quasi certaine dans les camps allemands.
Merci beaucoup Fabrice Grenard et à demain pour poursuivre.